Vous écoutez On lit pour vous.
Des villes fertiles. Un texte de Maureen Jouglin paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science. En 2026, produire des légumes en pleine ville n'a plus rien d'une utopie. Serres, fermes verticales et projets d'agriculture urbaine redessinent le paysage alimentaire et rapprochent la production des milieux de vie. Imaginez un quartier ou un village où la nourriture pousse un peu partout. Dans des jardins partagés, des potagers d'école, des cours d'immeubles, des parcs ou de petites serres. On y cultive ensemble fruits et légumes, puis on les distribue grâce à des marchés publics, à des paniers ou à des frigos communautaires. On y trouve aussi des cuisines collectives et des repas partagés, où l'on apprend à transformer et à cuisiner les aliments. Le tout est organisé par la population, les organismes communautaires et la municipalité, en fonction des besoins du milieu. Nombre de ces initiatives existent déjà sur le terrain, mais gagneraient à être mieux reconnues et structurées. C'est ce que l'on appelle les communautés nourricières. Les communautés nourricières permettent surtout de donner une forme de légitimité institutionnelle à des initiatives locales déjà bien vivantes, souligne René Audet, professeur au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, qui s'intéresse à ces démarches par l'entremise des plans de développement des communautés nourricières, PDCN. Ces plans sont souvent portés par des municipalités ou des municipalités régionales de comté, avec l'appui du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Ils servent à faire réfléchir collectivement à l'alimentation à l'échelle d'un territoire et à la planification d'actions sur plusieurs années. Les municipalités font beaucoup de planification stratégique et ce qu'on observe, c'est un effort pour articuler les communautés nourricières avec d'autres priorités, comme les plans climat et d'aménagement, ajoute-t-il. Cela peut se traduire par des modifications aux règlements municipaux ou la création d'infrastructures communes, par exemple. Près d'une quarantaine de communautés nourricières existent aujourd'hui au Québec. En juillet 2025, l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à Montréal a d'ailleurs adopté son premier PDCN. Celui-ci prévoit le déploiement de plusieurs projets d'agriculture urbaine d'ici 2030. Cette approche fait aussi son chemin à l'université. Un nouveau programme court de deuxième cycle en environnement nourricier a vu le jour en 2025 à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM. On veut former des gens capables de planifier, de mobiliser le public et de jouer un rôle de médiateur entre les différents secteurs, explique René Audet, qui espère ainsi créer davantage de passerelles avec le monde agricole. Faire pousser en ville, encore quelques mythes à déconstruire. Béton, pollution, sol contaminé. À première vue, la ville ne semble pas propice à l'agriculture. Pourtant, selon le collectif de glanage urbain Les Fruits défendus, plus de 100 tonnes de fruits pourraient être récoltées chaque année à Montréal, contre 6 actuellement. Des projets pilotes ont d'ailleurs permis d'analyser les fruits cueillis afin d'apporter des premières réponses quant à leur innocuité. Les fruits et légumes cultivés en ville se situent clairement sous les normes de contamination. Un contaminant n'est pas un être vivant qui voit une belle pomme et décide d'y aller, rappelle Éric Duchemin, directeur du Laboratoire sur l'agriculture urbaine, AU Lab, et professeur à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM. De façon générale, explique-t-il, les contaminants se concentrent surtout dans les feuilles ou le tronc, et beaucoup moins dans les fruits. Si je vois quelqu'un manger des feuilles de tomates, là je vais m'inquiéter, dit-il en plaisantant. Cette observation s'applique aussi aux jardins communautaires. En 2008, la Ville de Montréal s'est penchée sur la question de la contamination potentielle de certains sites. En effet, la loi sur les métaux et les sols contaminés date de 1986, alors que la majorité des jardins communautaires sont plus anciens, rappelle le chercheur. Dans des quartiers comme le plateau Mont-Royal, certains jardins ont été aménagés sur d'anciens terrains vacants servant autrefois de dépotoir, là où il était impossible de construire. L'annonce de l'étude a fait grand bruit, contrairement au rapport qui en a découlé. Pourtant, les résultats montraient que toutes les parties comestibles analysées respectaient les normes de sécurité. Les teneurs en métaux et en hydrocarbures étaient sous les seuils réglementaires, souligne Éric Duchemin. Les études montrent clairement que les fruits et légumes cultivés en ville se situent sous les normes de contamination et parfois même à des niveaux inférieurs à ceux des produits du commerce. C'était « Des villes fertiles », un texte de Maureen Jouglin paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science.
Sur la piste des victimes de la dictature syrienne. Un texte de Amélie David paru le 13 février 2026 dans le magazine Québec Science. Un an après la chute du régime Assad en Syrie, entre 100 000 et 300 000 personnes sont toujours portées disparues. Face à ce drame humain, la science médico-légale est devenue un outil essentiel pour identifier les restes humains, mais les obstacles demeurent considérables. Au milieu d'un paysage quasi désertique, à une trentaine de kilomètres de Damas, une maison en béton gris détonne dans le tableau ocre. Soudain, des sirènes hurlantes se font entendre. Deux véhicules de la sécurité civile, les casques blancs, débarquent en trombe devant le petit bâtiment abandonné. C'est ici, près de l'aéroport de la capitale syrienne, que des ossements ont été retrouvés par les habitants il y a une dizaine de jours. Des ossements exposés aux intempéries et aux différentes activités humaines ou animales. Quand nous avons découvert les os, ils étaient sous la terre et sous des débris. Je pense qu'ils sont ici depuis 2013, à l'époque où il y avait des exécutions, affirme Mohamed Amadé, 30 ans, originaire du village de Bitaria, à proximité du lieu où ont été découverts les ossements. C'est lui qui a appelé les autorités, lesquelles nous ont autorisés à assister à la scène. Les secouristes, c'est leur métier habituel, déploient un ruban de sécurité jaune et noir autour de la structure en béton. Ils entament une chorégraphie millimétrée pour ratisser la zone. Nous sommes appelés sur les sites comme celui-ci plusieurs fois par mois, expliquera plus tard Sarah Melem, 28 ans, en quatrième année d'études en médecine légale à l'Université de Damas, qui vient d'intégrer l'équipe de recherche des personnes disparues, des casques blancs. Il y a un peu plus d'un an, le 8 décembre 2024, le régime Assad, au pouvoir depuis 54 ans, s'est effondré à la suite d'offensives éclairs menées par des groupes rebelles, avec à leur tête Hayat Tahrir al-Sham, HTC. Hafez el-Assad avait pris le pouvoir en 1971. À sa mort, en 2000, c'est son fils, Bachar al-Assad, qui prend les rênes du pays. En 2011, dans la foulée des printemps arabes, une partie de la population s'empare de la rue pacifiquement. S'ensuivent des années de combats entre forces rebelles et gouvernementales. Cette guerre civile laisse un pays exsangue avec des milliers de victimes et de personnes déplacées. On compte aussi, selon les sources, entre 100 000 et 300 000 personnes disparues et, d'après le nouveau gouvernement, 64 fosses communes connues à ce jour. Dans un pays longtemps réduit au silence, dans lequel les familles craignaient de poser des questions sur le sort de leurs êtres aimés, retrouver ceux et celles qui se sont évaporés reste l'un des plus grands défis du gouvernement d'Ahmad al-Sharaa, le leader du groupe HTC, qui a fait chuter le régime. Défi d'autant plus grand que le pays n'a pas l'expertise médico-légale nécessaire pour procéder aux recherches et aux identifications, malgré la mise sur pied en mai 2025 par le gouvernement d'une commission nationale pour la recherche des personnes disparues. Dans la campagne d'Amassène, près de la Maison Grise, Sarah Mellem et son équipe tentent de repérer les eaux afin d'y apposer des piquets marqués d'un ruban vert. Près d'un des murs se distinguent clairement un crâne et une mâchoire. Le reste semble appartenir au bas d'un corps, brouillé dans un amas de béton, de terre et de haillons. Nous essayons de prendre tous les restes, de les conserver et de les protéger, explique Amar Al-Salmo, cofondateur des Casques Blancs, rencontré quelques semaines plus tôt dans la caserne de l'organisation à Damas. Une partie des secouristes nettoie les eaux à l'aide de pinceaux avant de les transmettre à Sarah Mellem, qui les regroupe sur une large bâche noire étendue au sol. Nous les classons en fonction de leur nature et nous les mettons dans les sacs pour les envoyer au centre syrien d'identification médico-légale, précise la jeune femme. Des milliers de personnes disparues. Le centre en question se situe dans le sud de Damas. Réhabilité avec l'aide du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, il a rouvert ses portes en mars 2025. Aujourd'hui, 4 médecins y travaillent à temps plein. Ils sont spécialisés en dentisterie médico-légale, mais ont aussi reçu des formations en anthropologie. L'identification des personnes repose sur plusieurs méthodes, notamment l'étude des os pour déterminer le sexe, l'âge, la stature ou des particularités anatomiques. Après réception des restes, nous commençons par les archiver et les étudier en détail. Nous utilisons aussi l'empreinte dentaire pour identifier les victimes. Elle est facile d'accès et nécessite pas de coûts importants, explique le directeur du centre, Anas Al-Ourani. Nous archivons ces données dans l'attente de recevoir les familles qui fourniront des informations sur leurs proches disparus. Détails dentaires, informations physiques, taille, âge. Uniques à chaque individu, les dents sont en effet très résistantes et peuvent être intactes même lorsque le reste du corps est gravement dégradé. Selon l'état des corps, les vêtements, les cicatrices, les tatouages, les marques de naissance et les empreintes digitales peuvent constituer des indices utiles. L'analyse de l'ADN, elle, pourra venir compléter les investigations dans les mois suivants. Dans une autre salle, les médecins Yasser Al-Kassem et Amer Al-Saragbi mènent justement des analyses sur deux crânes qu'ils ont extraits d'une grande boîte en carton. Ces restes viennent de la région de Homs, au nord de Damas. Ils ont été trouvés en surface, probablement au-dessus de ce qui pourrait être une fosse commune. La défense civile nous les a transférés pour études anthropologiques, en plus d'analyses dentaires et d'ADN, résume Yasser Al-Kassem en inscrivant les informations sur une fiche. Sur les lieux, beaucoup d'os étaient mélangés. On ne peut pas déterminer précisément combien de personnes étaient enterrées là. Ce mélange résulte d'une exhumation incorrecte car les familles ont dû fouiller les environs. Les spécialistes désignent ce genre de cas comme mixte. Les corps sont empilés, souvent dans un sol mou, et les squelettes se mélangent. L'analyse devient alors très difficile. Les cas fermés, soit lorsque des civils sont en mesure d'indiquer où ils ont enterré des corps, connus ou non, sont plus simples. 15 personnes ont pu être identifiées de cette façon depuis l'ouverture du centre, indique le directeur. Le docteur Al-Saragbi découpe une partie de la boîte crânienne au-dessus d'un large évier en inox. Ici, nous prélevons l'échantillon d'ADN dans l'os temporal, car il est solide. Mais nous préférons toujours les os longs, quand nous les avons, explique le médecin légiste de 52 ans. La Commission nationale pour la recherche des personnes disparues a l'ambition de constituer à l'aide des ONG une base de données de toutes les familles qui ont perdu des proches et de recueillir leurs témoignages et les informations nécessaires comme l'ADN. C'est aussi elle qui est chargée de coordonner la mise en place des laboratoires d'analyse génétique. Pour tous les restes, nous prélevons un échantillon ADN. Il est placé dans une enveloppe spéciale avec un code spécifique et stocké jusqu'à l'ouverture de ces laboratoires, indique le docteur El Ourani. Dans une autre pièce, les restes de plusieurs personnes sont entreposés. Crâne, mâchoire, fémur, tibia. Au milieu se trouvent aussi des vêtements, des chaussures ainsi que des douilles de balles. L'un des crânes avait des bandes adhésives sur les yeux. La personne a probablement été ligotée et exécutée. Il y avait aussi des liens autour des poignets, dit le docteur Amer Al-Saragbi. Manque de moyens humains, techniques et financiers. Avant d'ordonner l'ouverture des fosses communes, le gouvernement souhaite s'organiser. Pour l'heure, seuls les sites en surface font l'objet de recherches. Cela nécessite beaucoup de patience, de ressources, de capacités techniques et de la formation, ainsi que de la sensibilisation envers les familles, les journalistes et toutes les personnes concernées. Nous ne pouvons pas courir vers ces fosses communes. Nous devons respecter ces sites, car ce sont des scènes de crime, explique Mohamed Aswad, membre de la Commission nationale pour la recherche des personnes disparues. Le pays de 24 millions d'habitants compte à peine une cinquantaine de spécialistes en médecine légale qui ont, eux aussi, longtemps été réduits au silence dans leurs pratiques comme dans leurs rapports. Le médecin légiste établit la cause du décès, le moment de la mort, les circonstances. Avant, le régime ne voulait pas que nous le fassions, affirme Yasser Al-Kassem. La Commission travaille donc avec plusieurs organisations internationales, comme le CICR, dont le programme de médecine légale existe en Syrie depuis 2015. Je suis originaire de Bosnie, et dans les années 1990, la situation y était semblable à celle de la Syrie. Nous n'avions pas d'anthropologue ni d'archéologue médico-légal, explique Admir Jugo, coordonnateur du programme de médecine légale pour le CICR en Syrie, lui-même archéologue et anthropologue médico-légal. Le CICR aide à la création ou à la réhabilitation des infrastructures et à la formation du personnel. Mais nous ne remplaçons pas les autorités, affirme ce dernier. Je pense que, pour la société syrienne, il y a une occasion réelle d'apprendre de tous ces échecs et de monter un système qui fonctionne ici. L'expertise d'autres pays est aussi mise à profit. Depuis 2019, le Centre syrien pour la justice et la responsabilité, SJAC, travaille sur la recherche des personnes disparues dans le nord-est du pays qui a été contrôlée par l'organisation État islamique de 2014 à 2019. Les débuts des équipes locales ont été accompagnés par l'Argentine Forensic Anthropology Team qui a analysé 28 fosses depuis 2018. Dans 22 d'entre elles, les équipes ont retrouvé un total de 3700 corps, auxquels s'ajoutent 1900 autres récupérés sous les décombres dans les rues ou dans des tombes improvisées par les familles pendant les bombardements. Pour Hanna Grieg, directrice des programmes au SJAC, les entrevues avec les familles restent la première pièce du puzzle. Il y a souvent une précipitation de la part de tout le monde, y compris des familles, vers l'analyse ADN, parce que je pense que c'est perçu comme la solution miracle qui va nous permettre d'aboutir aux identifications, observe-t-elle. Mais écouter les familles reste primordial. De 100 000 à 300 000 personnes ont disparu en Syrie et 64 fosses communes sont connues à ce jour. Du temps et de la patience. Dans la campagne d'Amasène, le soleil a atteint son zénith. Les casques blancs ont retrouvé des dizaines d'os. Ils les emballent précautionneusement dans les sacs noirs. Quand les analyses au centre médico-légal sont terminées, nous gardons ces restes dans nos entrepôts, explique Dima Ahmad Mad. Nous ne les enterrons pas pour l'instant, jusqu'à ce qu'il y ait un plan national. Dans l'attente d'un protocole, les casques blancs continuent leur travail de terrain. Sarah Melhem replace son masque sur son nez et reprend son matériel. De nombreux Syriens ont vécu avec l'espoir de retrouver leurs êtres chers. Pour beaucoup, cet espoir est aujourd'hui éteint. C'est pourquoi nous recherchons les restes, pour permettre aux familles de faire le deuil de leurs êtres aimés, ajoute-t-elle. L'identification des victimes prendra plusieurs décennies et peut-être que certaines familles n'auront jamais les récompenses qu'elles cherchent. En attendant, au Centre d'identification médico-légale, le Dr Al-Ourani s'engage dans cette recherche sans compter ses heures. Il souligne « Au-delà de l'aspect technique, notre travail est humanitaire. Pour une famille qui cherche son fils disparu, le retrouver, c'est le début de la guérison de la société, des familles, de nous tous. » Ce reportage a été réalisé à l'aide du journaliste Majd Al-Boukel pour la traduction. Un faible taux de succès. Le processus d'identification des victimes de dictature ou de guerre est fastidieux et frustrant. 30 ans après le massacre de 8000 personnes à Srebrenica en Bosnie, plus de 1000 victimes restent encore à identifier. En Argentine, moins de 1000 individus ont été identifiés grâce à leurs restes sur 12 000 personnes disparues lors de la dictature militaire. Au Guatemala, l'équipe médico-légale nationale, l'une des nombreuses appelées en renfort en Syrie, a pu trouver l'identité de 4 000 personnes sur les 40 000 disparues et les plus de 200 000 enterrées dans des fosses communes. Nous voulons savoir. Mohamed Ziad Sabag tient la photo de son fils disparu en 2013 dans les locaux de l'Association des familles de César, qui rassemble ceux et celles qui ont perdu leurs proches sous la torture ou les mauvais traitements dans les prisons et les centres de détention du régime syrien. Son épouse, Oum Ehab, dit « Nous voulons savoir où est notre fils. Il s'est évaporé. Nous voulons l'enterrer. » C'était « Sur la piste des victimes de la dictature syrienne », un texte de Amélie David, paru le 13 février 2026, dans le magazine Québec Science.
Les vélos électriques causent des blessures plus graves. Un texte de Jean-Benoît Legault de la presse canadienne paru le 24 juin 2026 dans Le Devoir. Les chutes en vélo électrique causent des blessures particulièrement graves aux jambes, aux chevilles et aux genoux, constatent de plus en plus les médecins. Certains commencent même à regrouper ces blessures sous l'appellation informelle de « Lime Bike Leg », Lime étant le nom d'une entreprise de location de vélos et de scooters électriques présente un peu partout sur la planète, y compris à Montréal. Ces blessures ne sont toutefois pas propres à une entreprise en particulier. Elles semblent plutôt être liées à l'essor rapide de l'utilisation des vélos électriques. Si on regarde un peu les mécanismes des chutes et tout ça, il y a beaucoup plus de blessures graves que si on n'avait pas un vélo électrique d'impliqué, a commenté le docteur Julio Fernandez, qui est chirurgien orthopédiste au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Compte tenu du poids des vélos électriques et des vitesses dont ils sont capables, lorsque les utilisateurs perdent le contrôle, le vélo peut tomber sur leurs jambes ou la coincer contre le sol, générant ainsi des forces de torsion et d'écrasement peu courantes avec des vélos conventionnels. La vitesse, c'est l'aspect numéro un, a dit le docteur Fernandez. Deuxième chose, c'est le poids. Une fois qu'on chute, si le vélo tombe sur nous, il y a un effet de masse qui peut causer donc une blessure plus grave, ça c'est sûr. Certaines des blessures qui en résultent ressemblent à celles que l'on observe plus souvent lors d'accidents de moto, souligne-t-on. La plupart des blessures seraient attribuables au manque de familiarité des utilisateurs avec leur vélo électrique, particulièrement en ce qui concerne la vitesse à laquelle ils circulent en fonction des conditions du moment. Les nouveaux utilisateurs doivent comprendre que les vélos électriques, étant plus lourds, réagiront différemment des vélos conventionnels, par exemple en ce qui concerne les virages et le freinage. Ils seront aussi plus susceptibles de perdre l'équilibre à basse vitesse. Est-ce que les gens portaient un casque ou pas de casque? A demandé le docteur Fernandez. Si les gens ne font pas attention à leur propre sécurité, quand on dit trauma crânien, c'est les deux tiers des décès. Alors, on voit la cause et les faits. Le Québec ne dispose pas de données spécifiques aux blessures subies en vélo électrique, a-t-il ajouté, mais depuis 10 ans, on recense chaque année environ 1 000 hospitalisations dues à des accidents de vélo traditionnels. Ces chiffres ne comprennent pas les blessés qui se présentent aux urgences par leurs propres moyens. Des statistiques européennes, en revanche, montrent que la fréquence d'accidents par kilomètre roulé est similaire si on compare les vélos électriques aux vélos traditionnels, mais que les blessures subies sont plus graves, notamment des traumatismes crâniens, des fractures du bassin et des fractures de la colonne vertébrale plus sérieuses, a dit le docteur Fernandez. On ne sait pas si les accidents de vélo électrique sont plus fréquents que les accidents de vélo ordinaire, mais quand ils surviennent, c'est certain que c'est plus grave, a-t-il conclu. C'était « Les vélos électriques causent des blessures plus graves », un texte de Jean-Benoît Legault de la presse canadienne, paru le 24 juin 2026 dans Le Devoir.